tropicalo, yeah, allez, yo.
Messieurs et dames, bien bonsoir. Voici Couleur Tropicale.
Une civilisation qui s'avère incapable de résoudre les problèmes que suscite son fonctionnement est une civilisation décadente.
Couleur tropicale.
Tu montes, on monte, tu descends, on descend. Tu plonges dans la rivière, on se noie ensemble.
L'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte ne mérite pas que l'on s'apitoie sur son sort. Seule la lutte libère.
Une Afrique démembrée, lacérée, déchirée.
Toi-même tu...
Couleur tropicale avec Claudicia.
Et Victor Hull, Annabelle Jogamandi, Hervé Mandina. Bonne arrivée la famille. Que de bouleversements en ce jour. Certains évoqueront le retour annoncé de Zinedine Zidane au Real et d'autres Bouteflika qui se retirent ou les changements à RFI. Et tout cela peut être débattu dans la génération consciente, la libre antenne de Couleur tropicale. Si vous voulez vous exprimer sur tous les sujets qui vous semblent importants, il vous suffit de nous envoyer votre prénom et le sujet choisi par message WhatsApp et on vous rappelle immédiatement. Voici notre numéro WhatsApp si vous ne l'avez pas encore noté. 00336 37 42 62 24. L'occasion de faire une mise au point. 00336 37 42 62 24. Allez la famille, voici José justement pour une mise au point. Je suis là. José, la diva ivoirienne, la diva panafricaine. Et c'est tout naturellement qu'elle fut d'ailleurs coach de The Voice Afrique francophone saison 2. Toi-même, tu sais, la plus grande compétition musicale d'Afrique et même du monde. Non, parce que les autres The Voice, c'est par pays. Alors qu'en ce qui concerne l'Afrique francophone, ce sont plusieurs pays qui sont concernés. The Voice revient d'ailleurs en octobre 2019. Passez le message. Une autre compétition musicale va bientôt faire son retour. Mais là, c'est encore top secret. Mise au point, c'était José. Au fait, quiz. Donnez-moi le nom d'un chanteur afro-caribéen, de la Martinique, je vous aide là, qui a connu un énorme succès avec une chanson intitulée « Mise au point ». Tic-tac, tic-tac. Bravo, Harry Diboula ! Mais oui, mais oui.
Je
Rasta mes enfants.
Voilà, mise au point, Harry Dimoula, les années 90. Autre quiz avec Tony Saint-Laurent et Kevin Razi.
Bienvenue à Al-Qaïda Quiz, le jeu qui fait tic-tac, tic-tac. Vous connaissez le principe, mesdames, messieurs. Deux candidats, 1000 vierges. Et à la clé, un billet d'avion à gagner à destination du building de votre choix. Je vous demanderai d'accueillir notre premier candidat. Il nous vient de Bougnoul-Billancourt. Il s'appelle Abdel Tony. Quelle énergie, salam alaikum.
Salakoum.
Voilà, ok. Alors, vous, Abdel Tony, vous bossez dans le halal.
Oui, tout à fait, je travaille à la halal aux chaussures.
Voilà, ok, bon, on va accueillir le prochain candidat. Il nous vient de Champigny-sur-Barbe. Il s'appelle Adel Kevin, mesdames et messieurs.
Salam.
Alors, Abdel Kevin, vous êtes styliste.
Tout à fait, je suis styliste et j'ai notamment inventé la burkini. C'est-à-dire qu'en haut, c'est burqa, en bas, c'est bikini. Donc ça permet d'être respectable tout en assumant son côté salope.
Ah, c'est génial, on peut l'applaudir. Allez, on va passer à la première épreuve. Tic-tac, tic-tac. Super, la première épreuve, l'épreuve du lalala ou du wawawa, c'est très simple. Quand c'est faux, vous dites
lalala.
Quand c'est vrai, vous dites
wawawa.
Top, une femme en burqa peut faire du surf.
Wawawa, on appelle ça une planche à voile.
Bonne réponse, Abdel Kevin. Il est interdit de jouer à Candy Crush pendant le ramadan.
Lalala, on peut y jouer la nuit.
C'est vrai, c'est une bonne réponse aussi. Ok, allez, un peu de concentration. Vous voulez sortir de la cité, les copes ont dit
Lelela.
Marre de se faire rencaler en boîte de nuit
Lelela.
Alors dans une semaine, je rentre en Syrie.
Wawawa.
Bonne réponse, Abdel Kevin, pour remporter cette manche extraordinaire. Allez, la deuxième épreuve.
Excusez-moi, concernant les 1000 vierges.
Oui.
Je voulais savoir, est-ce qu'on peut prendre des beurettes de chicha?
Ah non, Abdel Tony, on a dit des vierges. Épreuve de rapidité, vous êtes prêts?
Oui.
Top. Donnez-moi une confiserie afghane.
La barba papa.
Quelle est la chanson préférée des terroristes?
Sex bombe.
C'est bien, Abdel Kevin. Citez-moi deux mots la célèbre.
Mola que tal.
Hein? C'est quoi ça?
Mola que tal. Parlez pas espagnol. Mola que tal, muy bien.
On va lui accorder. Allez, c'est parti. Épreuve de rapidité. Quel est le premier film préféré de Ben Laden?
La boum.
Le deuxième film préféré de Ben Laden?
La boum 2.
Bonne réponse, collégiale, on peut les applaudir. Comment s'appelle le parc de loisirs d'Al-Qaïda?
Le World Trade Center Park.
Quand un terroriste tombe dans les pommes, que faut-il faire?
Du babouche à bouche.
Si, il est par terre, il est dans les pommes, hop, t'arrives avec la babouche, bam! Tu lui mets dans le nez, ça pue, il se réveille, la babouche à bouche.
On va lui accorder le point, Abdel Tony. Allez, dernière question. Attention, il y a un piège. Avant de mourir, quelles sont les dernières phrases prononcées par Ben Laden?
Concernant les 1000 vierges.
Bonne réponse, Abdel Tony. C'est extraordinaire. Troisième épreuve, tic-tac, tic-tac.
Boum.
L'épreuve de la chanson, c'est très simple. Je vous donne le début d'une chanson et vous faites la suite, par exemple,
à Al-Qaïda. Tout le monde s'éclate chez Al-Qaïda.
La deuxième chanson, je danse là.
Je danse le mot là, pas de rail NB, qui est pied ouvert, main de Fatma qui brille.
Super, hein. Eh oui. Abdel Tony, il est chaud. Allez, troisième chanson.
Ah, qu'est-ce qu'on est serré au fond de cette cave. Chante les moudjahidines, chante les moudjahidines entre les barbes et les arabes.
Bonne réponse, Abdel Tony, super. Oh là là, j'adore. Super, Abdel Tony, c'est super, j'adore. Malheureusement, c'est la fin du jeu. Alors, on nous dit dans l'oreillette que vous êtes ex aequo. Je me tourne vers Abdel Tony. Entre le billet d'avion et les 1000 vierges, que choisissez-vous?
Je vais prendre le billet d'avion.
Merci Abdel Tony, on peut l'applaudir bien fort. Abdel Kevin.
Moi je prends Abdel Tony. Reviens là.
Merci mesdames, messieurs, c'était Al-Qaïda Quiz.
Peut-on rire de tout et avec tout lorsqu'on se pose déjà la question? C'est déjà de la censure. Al-Qaïda Quiz, c'était Tony Saint-Laurent et Kevin Razi.
Messieurs, chalet.
C'est quoi encore? Couleur tropicale ou rien?
couleur tropicale avec Claudicia.
Salutations à chacune et tous. Moi c'est Djamil Mamangao, slameur béninois et africain. J'ai le plaisir de vous présenter Réveille-toi, premier titre de mon premier album Naï Noukon. Alors Réveille-toi, c'est une chanson que je considère être un appel à l'action pour les Africains qui passent plus de temps à se plaindre de ce qui n'est pas plutôt qu'à agir pour ce qui doit être. Parce que je pense qu'on ne va pas construire ce continent en passant notre temps à ressasser. On va construire ce continent en faisant petit à petit, mais en faisant bien, en faisant ensemble, en réinventant les choses. Et c'est ça le message de Réveille-toi. Alors régalez-vous, plongez dans ce que j'appelle mon afro-slam. Allez ensuite acheter l'album Naï Noukon sur useline.co. Sinon, vous pouvez aussi le précommander sur Amazon. Je dis donc merci à Annabelle, merci à Maury Touré, merci à toute l'équipe de Couleur Tropicale. Et si tu penses que l'Afrique dort, réveille-toi. N'est-ce pas, Claudie? Toi-même, tu sais.
Bienvenue au seuil de l'espoir de mon peuple. Par la flopée de ma salive, j'étreins l'estime de nos preux. Au gré des poris qui nous fondent et qui nous incarnent, je délecte mes désirs pour l'Afrique de nos vœux. Amour indéfectible, je n'existe que par mes origines. Fierté majuscule, j'en parle avec l'envie de mes origines. Je vous parle de toute cette unité qui attend qu'on l'étreigne. Et je vais dire à mes pères ce que nous sommes et qui nous traîne. C'est le moment des grandes révélations. Il n'est plus suffisant de juste rêver l'action. Il faut agir au-delà de nos contraintes, en immolant nos complaintes. Donc, si tu penses que l'Afrique dort, réveille-toi. Nos danses et du ton de nos chants, j'emboîte l'Afrique avec le rythme de mes reins. Je songe souvent à la saveur de nos beignets chauds, à la douceur de nos contes autour du feu, à la parole du griot et au naturel de notre nature. Allons donc dire aux sceptiques, allons leur dire qu'on a lacéré les nœuds. Au nom de nos racines, on s'accepte tel qu'on se peut. Et désormais, les lianes auront peur des paupières de nos feux. Car si l'espoir vit dans nos tripes, c'est pour qu'on intrigue ensemble le passé. Et qu'importe qu'on nous dise terminé, nous affronterons l'effronterie pour lui dire terminé. Donc, si tu penses que l'Afrique dort, réveille-toi. Réveille-toi.
Looking for myself, lot of mirages. Am I really ready? Can I convince my body, my soul, my mind, my spirit that I'm really ready? Ready to walk the long way. Can I handle my faith one day? Can I draw the lines in my path? Can I look for myself in the mirror at the end of the path? Steady, I'm waiting for the dance. Best is what I did. What do I be? There's no more choice. I stay long in the dark. I grew up in doubt. Like I come out.
Djamil Mama Gaour, la génération consciente en action, le panafricain Djamil aux origines togolaises et maliennes, et sa terre est le Bénin. Djamil nous fait plaisir lorsqu'il dit que la période des plaintes est passée et terminée. Nous sommes à l'ère des bâtisseurs. Certes, nous devons convoquer le passé pour comprendre le présent et bâtir l'avenir, mais ne jamais être prisonnier du passé et ne jamais cultiver la haine. La haine est un poison, pas une solution. Mais ça ne doit pas nous empêcher de dire ce que nous avons à dire. Et parfois de façon virulente. Merci Jamil Mamagao.
Kula, 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 tropical.
Bonsoir à tous, voici les titres de l'actualité.
Bienvenue si vous nous rejoignez à l'écoute d'RTL.
Bienvenue dans cette nouvelle édition, à la une de l'actualité.
La story de Richard Joffo.
J'ai finalement regardé la série Black Earth Rising d'Hugo Blick sur Netflix. J'ai regardé comme un thriller l'histoire de cette jeune Tutsi remarquablement interprétée par Michaela Coel qui explore avec colère et souffrance son passé de rescapée du génocide rwandais. Sauvée petite fille par un couple britannique, cette jeune femme devenue juriste part à la recherche d'une vérité qu'elle ne trouvera peut-être pas complètement sur les terribles massacres qui ont marqué cette période. La juriste en elle pratique la rigueur et l'obstination. La jeune fille, déchirée, marquée de blessures à l'âme sans espoir de cicatrisation, se perd dans les contradictions d'une enquête où tous apparaissent comme coupables de quelque chose. Certains Tutsis se retrouvent accusés, tout comme les Hutus, bousculant le manichéisme primaire qui caractérise trop souvent nos approches de ces événements. La série pointe évidemment la responsabilité de la France, colonisatrice cynique qui fait passer la déraison d'État bien avant leur recherche de la vérité. L'influence toxique du monde occidental sur l'Afrique transpire tout au long des 8 épisodes de cette mini-série. Ce post-colonialisme qui tente à maintenir le continent sous une dépendance condescendante, déguisée en cette forme d'aide qui masque mal une exploitation permanente et arrogante, nous interroge sur nous-mêmes. Au-delà d'une recherche de rigueur encyclopédique minutieuse, la série se présente avec tous les ingrédients d'un thriller qui propose des rebondissements, des cliffs qui nous accrochent d'un épisode à l'autre, des comédiens remarquables et une ambiance ésotérique dans les reconstitutions historiques en forme d'animation. On décroche parfois à cause de certaines lourdeurs dans l'écriture, compensées par le jeu époustouflant de Michaela Coel et John Goodman en père adoptif malade et ambigu. Reste que cette série, par la gravité de son sujet, ne peut pas être considérée comme un divertissement, mais nous emporte avec passion vers une quête de la vérité historique, tout aussi difficile à trouver que la vérité des êtres. Et c'est un aphorisme tiré d'un vieux proverbe indien qui me vient à l'esprit. « Suis celui qui cherche la vérité, fuis celui qui prétend l'avoir trouvée. » Mais ça, évidemment,
c'est
une autre story.
Richard Joffo.
C'est quoi encore ? Les couleurs tropicales ou rien ?
Musical est phénoménal, couleur tropicale, danger.
On va retrouver Richard Joffo dans quelques minutes. Allez, maintenant, tout de suite, c'est immédiat. Là, tout le monde sur la piste de la plus grande discothèque d'Afrique. Et au platine, DJ Jules le phénoménal. Écoute ça. Envoie le son.
Phénoménal, Jules, DJ.
C'est lui. Allez, tout le monde sur la piste, tout le monde sur la piste.
À part nous, les autres sont des nuls. À part nous, les autres sont des nuls. À part nous, les autres sont des nuls. Nous on est. À part nous, les autres sont des nuls. À part nous, les autres sont des nuls. À part nous, les autres sont des nuls. Nous on est. À part nous, les autres sont des nuls. À part nous, les autres sont des nuls. À part nous, les autres sont des nuls. Nous on est. À part nous, les autres sont des nuls. À part nous, les autres sont des nuls. À part nous, les autres sont des nuls. Nous on est. Y'a pas où tu l'as pour biwado. Biwado. Ma clé de que t'en as biwado. Y'a vite chez l'aime le soir, bonodo. Coutil ou bouve, ça tient Jojo. Hypocrite que toi, y'a pas. C'est comme les couilles entre tes cuisses. Tu fais du déjà vu, mon gars. Je vois pas en quoi ta touche est unique. Ton soir, c'est comme essence de rue. Les deux sont païens. Ces rappeurs ne pas que du faux. Ils disent qu'ils ont les deux, mais on sait que c'est faux. Ils disent que c'est faux.
Que on veut. Ici c'est le nombre 209. C'est le week-end photo. Je suis plein d'énergie, je viens tout casser et casser. Les gars sont frais, les gosses sont fraîches. On fait la fête, mine dans la dèche. On laisse les critiques aux jaloux. Car pour nous, l'alcool c'est de l'eau. La vie est dure, on reconnaît. Mais les soucis valent pas la peine. Hello, Picasso, Pacheco, Trio. C'est le week-end, oh. On se retrouve tous dans le bando. Rodage et Chino, Hawaii, you know. On me vit une fois dans l'état. Musée, laisse-la parler. C'est le week-end, oh.
Jules le phénoménal était au platine de la plus grande discothèque d'Afrique. Il vous avait dansé sur X-Time pour Tiens, Killer Bee avec Weekend, Chris Barr pour Zo et à l'instant Robertine pour Love Music.
Cool, Tropical.
La libre antenne.
C'est parti!
Claudio, il y a le téléphone pour toi. Hein.
33 6 67 42 62 24.
Dans quelques instants, les auditeurs leaders dans la génération consciente, la libre antenne de Couleur Tropicale. Et avant de passer notre coup de fil du soir, un rappel de l'histoire. Car la jeunesse, et les parents aussi, il faut bien le dire parfois, n'ont pas eu l'opportunité de connaître certains épisodes importants de l'histoire d'Africa et de ses diasporas. Le 11 mars 1861, au Cayors, l'actuel Sénégal, Les troupes coloniales françaises dirigées par Faidherbe prennent position. Dans les environs, les cavaliers du Damel Makoudou sont en alerte, puis passent à l'attaque. Dans les rangs des Cayoriens, les pertes sont sévères. Les canons des Français tuent les plus valeureux guerriers. Les cadavres jonchent le champ de bataille. L'armée du Damel Makoudou est décimée. Un mois plus tard, le royaume tombera. N'oublions jamais que la colonisation est un braquage, une prise d'otage, un pillage. N'oublions jamais que la colonisation est un crime contre l'humanité. En attendant que cette histoire coloniale soit enseignée sans complexe ni volonté de dissimulation et de vengeance, la France est bousculée par la question sociale Et pas seulement. Une question sociale exprimée lors des manifestations des Gilets jaunes en France, et cela depuis de nombreuses semaines. Ces Gilets jaunes ont inspiré à l'État français un grand débat national. Ce jeudi 14 mars, à l'espace Gendarme, dans le 2e arrondissement de Paris, le grand débat national portera sur les médias et la démocratie. L'occasion peut-être de convoquer l'histoire là encore. Richard Joffaut, président de l'Académie audiovisuelle, est l'organisateur de cette rencontre. Richard, bonne arrivée.
Merci de me recevoir, merci de m'écouter.
Deuxième salve pour toi dans Couleur Tropicale. Alors, on va parler de ces médias lors de cette soirée du 14 mars. Les médias ont évidemment un rôle primordial dans l'application de la démocratie. La posture des médias est une question centrale dans la société française. C'est une des raisons de ce débat ?
Oui, tout à fait. On en avait discuté déjà, et même ensemble, jeudi. Il était étonnant de voir que le grand débat n'avait pas prévu d'aborder la problématique des médias. Et donc, on a décidé d'organiser avec la mairie du 2e arrondissement, avec le maire, Jacques Couteau, un grand débat qui est centré sur ce thème-là, avec trois grands axes. Le premier, c'est l'indépendance des médias, la liberté de la presse, la responsabilité. On pourra développer. Le deuxième, c'est ce que j'appelle le journalisme sauvage, c'est-à-dire l'éthique des transmetteurs d'informations, influenceurs et autres qui, sur les réseaux sociaux ou sur Internet en général, transmettent de l'information, et surtout ceux qui la lisent ont-ils un œil assez éduqué pour la comprendre et pour faire le tri entre la rumeur et l'information. Et le troisième, c'est la représentativité de notre diversité en France. La France est une belle boîte de crayons de couleur, et pourtant on a une télévision et des médias qui sont cruellement monochromes. Voilà les trois thèmes.
Le panel de spécialistes, le public, évidemment, devront débattre autour de questions centrales comme, et tu le disais, l'indépendance des médias, l'éthique. Justement, peut-on dire qu'en France, le politique n'a plus la même influence, ou en tout cas n'a plus cette forme de domination sur les médias, ce qui se dit dans les médias, radio, télévision, presse écrite, contrairement à ce qui est de rigueur dans certains médias publics en Afrique. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a, en tout cas en France, il y a eu cette émancipation et qu'elle est plutôt aujourd'hui conservée ?
Alors, on peut le dire si on regarde les choses par le petit bout de la lorgnette. Je me souviens d'une conversation que j'avais eue avec un ami qui était malien et qui me disait, vous en France, vous avez la télévision publique, nous, on a une télévision d'État. Et je lui ai répondu, tu sais, nous, notre télévision d'État, c'est la télévision privée. Parce que les grands groupes qui détiennent les médias en France sont des groupes militaro-industriels qui sont en situation de passer des marchés d'État. Donc ils dépendent encore plus de l'État. Et c'est là où il y a un peu une tromperie.
Est-ce qu'aujourd'hui, dans cette France, tu le disais, avec beaucoup de poésie, une France qui est un véritable, qui est une boîte de crayons de couleur, avec une France qui est face à une crise identitaire réelle, puisqu'elle a du mal à reconnaître tous ses enfants au regard de la couleur de peau, de la religion de certains. Est-ce que, là encore, as-tu le sentiment, toi, et peut-être que le débat pourra apporter aussi certaines réponses à bon nombre de questions, as-tu le sentiment que les choses avancent? Ou fais-tu le constat que nous pouvons faire, en tout cas certains d'entre nous, je sais que toi et moi nous avons le même regard, c'est-à-dire que nous sommes par exemple face à une télévision publique qui a oublié qu'en France il y avait des Asiatiques, qui a oublié qu'en France il y avait des Noirs, et il suffit de regarder France 2, France 3, France 4 et France 5.
Oui, alors, ce qui est étonnant, c'est que c'est une absence de prise en compte de données marketing. Ce n'est même pas une question d'humanisme, de diversité, d'ouverture d'esprit, etc. Comment voulez-vous que ces patrons d'une chaîne de télévision publique, c'est pour ça que la télévision publique notamment est à la traîne, pas uniquement pour ça, mais pour ça aussi, comment voulez-vous que cette télévision séduise un public si cette télévision ne ressemble pas au public en question? C'est du marketing, avant même d'être une question humaniste, une question d'ouverture d'esprit.
Alors donc, ce jeudi 14 mars, ce sera vraiment l'occasion de 19h30 à 22h30 à l'espace Gendarme de parler de tout cela. C'est dans le 2e arrondissement de Paris, 14 rue Léopold Bellan, en présence du maire d'ailleurs du 2e arrondissement.
Voilà, c'est au 17 rue Léopold Bellan, en présence de Jacques Boutot, le maire du 2e arrondissement, et en présence de quelques professionnels. Alors c'est pas un colloque où les professionnels vont éduquer les non-professionnels. Les professionnels sont là pour donner des clés de compréhension parce que le langage des médias est un peu abscon, cet univers est un peu ésotérique, il faut qu'on explique, quoi. Et ce sera retransmis en direct sur la web radio de l'Académie de Visuel qui s'appelle IRM, c'est irm.radio. Ça sera en direct. Et vous y serez, Claudie?
Bah oui, je serai là, évidemment, mon cher Richard. Et puis
besoin de votre regard. Hein.
Bon, à toutes celles et tous ceux qui pensent que les politiques de quotas ne sont pas les bonnes politiques, à toutes celles et tous ceux qui disent non, mais il faudrait finalement une politique de discrimination positive, deux termes antinomiques d'ailleurs dans cette question-là. Nous plaidons en tout cas pour une diversité représentative, c'est-à-dire toutes celles et tous ceux qui composent ce beau pays, cette belle boîte de couleurs.
Oui, c'est exactement ça. C'est vrai que discrimination positive, c'est pas très très joli. Les Américains appelaient ça affirmative action.
Exactement, exactement.
Et là, c'était beaucoup plus efficace et beaucoup plus représentatif.
Voilà. Diversité représentative, ça devrait aussi aller. Merci beaucoup, mon cher Richard. Tu vois, j'avais remis des unités dans mon téléphone pour qu'on ait le temps de discuter ensemble. Merci, Richard. On se retrouve donc le jeudi 14 mars, 19h30, 22h30, à l'espace Gendarme, dans le 2e arrondissement de Paris.
Désolé, vous n'avez plus d'unité.
Avec la thématique pour ce grand débat national, médias et démocratie.
Tropical. Combien véritablement connaissaient l'Afrique lorsque, autour d'une carte mal faite d'ailleurs, ils décidaient de tracer les frontières, ignorant qu'ils séparaient des familles, des ethnies, des groupes sociaux. Comment ce groupe d'hommes peut décider pour des millions et des millions d'autres hommes?
C'est quoi encore?
Couleur tropicale avec Claudie Ciard.
Maxwell, bonne arrivée.
Merci, bonsoir Claudie.
En direct de Bafoussam. Laure Ayossou, depuis Lomé, bonne arrivée Laure.
Bonsoir Claudie.
En espérant que cette fois la ligne ne nous fera pas défaut et que la technologie ne nous lâchera pas en cours de route lorsque tu t'exprimeras tout à l'heure.
Mais non, oui, il n'y a pas d'orage dans l'air, donc ça devrait marcher.
Bon, Lamine à Abidjan, bonne arrivée Lamine.
Bonsoir Claudie.
Maxwell, la semaine dernière, nous t'avions promis, ainsi qu'à Lamine, que vous seriez les premiers à vous exprimer. Alors peut-être que Lamine cédera sa place tout à l'heure alors, mais Maxwell, tu voulais donc nous entretenir d'un sujet extrêmement grave et depuis de nombreuses années, c'est le mal que la religion, alors lorsqu'on parle de religion, on parle des institutions religieuses peut-être aussi, tu vas le préciser dans un instant, ce que la religion cause de plus négatif, de plus dangereux également aux populations d'Afrique. Nous t'écoutons.
Oui, Claudicia, quand je parlais la semaine dernière de l'Église et du mal qu'elle a commis dans l'Afrique en général, moi je parle plus de ce que la population essaie d'ignorer. Le mal qu'elle commet dans le sens où quand elle est arrivée, elle essaie de nous faire croire que nos traditions, nos croyances sont mauvaises, alors qu'elles-mêmes, elles ont des pratiques qui sont aussi plus mauvaises que les nôtres. Là, on peut parler des cas des agressions sexuelles commises par des prêtres. Nous avons eu des exemples graves même dans notre région, qui est l'Ouest Cameroun. Oui, quand nous parlons aussi de ça, nous pouvons constater que l'Église, elle, qui essaye de nous étouffer, elle nous étouffe en nous faisant croire qu'elle a une excellente réputation dans le terme de l'humanité, alors que elle nous fait du mal en bouleversant notre généalogie. On se rend compte maintenant que tu ne peux plus interroger même un jeune homme de savoir quel est le nom de son arrière-grand-père t'a dit, quel est le nom de son grand-père t'a dit, parce que l'Église a fait croire aux uns aux autres que non, il ne faut pas croire aux traditions, il ne faut pas rentrer au village et connaître ceci, cela ou cela, il faut venir qu'à l'Église. Et l'Église est aussi là pour le pillage de la population. Vous vous rendez compte que L'église, un prêtre va se placer là pour vous dire il faut venir avec tant à l'église pour pouvoir être accepté auprès de Dieu. Étant donné que vous ne parvenez même pas à avoir de quoi vous nourrir. Est-ce que ça c'est encore, est-ce que quand moi j'observe ça, je me demande si c'est encore ce que Dieu voudrait normalement que l'homme fasse. D'être là en train de souffrir et porter plutôt ces choses que tu pouvais essayer de te nourrir avec pour aller déposer à l'église pour pouvoir avoir la bénédiction de Dieu, alors que ces choses-là, c'est pour nourrir les pasteurs et les prêtres pour qu'ils puissent bien se vêtir et avoir des belles voitures et tout et tout.
Lorsque Maxwell, lorsque tu parles de religion, là tu es sur, on a le sentiment en tout cas, sur la religion chrétienne, sur le catholicisme et toutes ces obédiences, l'islam ne pour toi ne fait pas partie aussi de ces religions, même si elles ont été imposées plusieurs siècles auparavant sur certaines populations d'Afrique. Pour toi, tu dissocies par exemple la religion musulmane du catholicisme?
C'est juste que
c'est une question.
Même la religion musulmane en fait partie, puisque elle aussi, elle est la cause des différentes guerres dans les régions.
Ouais.
Oui.
Maxwell, je voudrais juste, comment est-ce que l'on peut expliquer, parce qu'aujourd'hui, avec le recul de l'histoire, mais avec la connaissance, et tout le monde sait, autant ce que on a du mal à peut-être expliquer comment l'islam s'est répandu, en tout cas ceux qui ne sont pas des érudits en la matière, hein, comment l'islam s'est répandu en Afrique subsaharienne, comment se fait-il, en sachant ce que l'on sait, comment la religion chrétienne a été imposée, la Bible d'un côté, l'arme de l'autre. Comment se fait-il que tant d'Africains aujourd'hui soient encore chrétiens et que les églises chrétiennes, évangélistes, charismatiques, se multiplient à foison? Je dis ça vraiment en faisant abstraction. Je n'exprime ni un point de vue personnel. Je n'appartiens à aucune église. Je n'appartiens à aucune religion. Mais comment expliquer ça quand on sait tous les crimes commis par que ce soit du temps de l'esclavage et de la colonisation par la chrétienté, par les églises chrétiennes?
C'est justement ce que j'ai dit, que les gens sont en train d'ignorer le mal que l'Église est toujours en train de continuer à faire.
Ouais.
Certains ignorent même le mal qu'elle a fait par le passé, même le fait qu'elle a une implication directe dans l'esclavage et la colonisation.
Mais comment est-ce qu'on peut expliquer ça, Maxwell?
Pourquoi? On peut expliquer ça par le fait que Elle a dû masquer le mal qu'elle a fait par je peux appeler ça quoi, par le fait qu'ils ont un peu créé ce qu'on appelle la mascara en construisant peut-être les écoles et étouffer,
ouais,
pour pouvoir étouffer le passé, le mal.
Oui, Maxwell, très vite.
Et ce qui fait qu'on ne peut pas donc comprendre, ce qui fait que si on ne parvient pas bien à expliquer à quelqu'un, il ne peut pas comprendre que l'Église là n'est pas réellement ce qu'il voit,
bon,
ce qu'il croit et ce qu'il vit.
On a bien compris. Merci beaucoup, en tout cas, Maxwell. Merci également d'avoir rappelé, puisque tu étais probablement à l'écoute lorsque mon gesti depuis le Congo Brazza s'était exprimé sur ce qui lui a été fait. Puisque lui-même a été victime dans sa jeunesse, d'un prêtre qui l'a violé, très clairement. Enfin, en tout cas, qui a abusé de lui sexuellement. Et aujourd'hui, à 40 ans, il ose dénoncer cela. Et c'est vrai que j'ai le sentiment que les voix se taisent, que personne n'ose parler. Je pensais qu'il y aurait beaucoup plus de réactions des personnes, des femmes et des hommes qui oseraient dire, moi aussi, j'ai été victime. Et comme mon gestier, je ne me laisserai pas faire. J'irai devant les tribunaux, j'irai porter plainte parce qu'il faut que justice me soit rendue et soit rendue à toutes les victimes. Donc, merci d'avoir abordé ce sujet-là. Laure, depuis Lomé, tu es vraiment, on l'a dit lorsque nous t'avions eu au téléphone, tu es vraiment quelqu'un dont l'action force le respect. Tu es aujourd'hui à la tête d'une association, l'association Noah, où tu viens en aide aux enfants handicapés et j'ai même envie de dire par extension aux enfants dont les parents, à cause du milieu social, n'ont pas les moyens de soigner leurs enfants malades et donc handicapés. Je voudrais que tu nous présentes ton association Noah et que tu nous en dises un petit peu plus sur l'action que tu mènes. Laure ? Laure.
Bon. Laure avait disparu à nouveau.
Ah, tu es là.
Excusez-moi.
Bon, m'as-tu entendu au moins?
Je n'ai pas entendu la fin de la question.
Bon, je voudrais que tout simplement que tu nous présentes l'association NOAA et les actions et les objectifs de l'association NOAA.
Merci Claudie, merci de me recevoir ce soir. J'aurais souhaité surtout annoncer la prochaine mission en mai prochain et faire un appel à toutes les bonnes volontés pour nous aider à collecter le maximum de fonds pour pouvoir opérer le maximum d'enfants. C'est-à-dire effectivement que nous prenons en charge des enfants handicapés qui n'ont pas les moyens financiers de se faire opérer ici en Afrique. Et nous essayons de faire venir des chirurgiens d'Europe pour pouvoir, face à leur pathologie, transmettre le geste qui permettra d'amoindrir, voire de supprimer leur handicap.
Aujourd'hui, l'association que tu as créée, parce que tu es maman d'un enfant handicapé, aujourd'hui, l'association bénéficie de l'aide de bénévoles. Est-ce qu'elle bénéficie aussi de l'aide de l'État? Est-ce que l'État voit l'association NOAA comme une association dont l'action peut être complémentaire de celle du ministère de la Santé, par exemple?
Oui, l'État valide l'action parce que tout ce qui est humanitaire, de toutes les façons, l'État est d'accord pour que nous ayons une action complémentaire à la leur. Ils ne peuvent pas tout faire. Donc si nous pouvons prendre en charge une petite partie, pourquoi pas?
Je disais tout à l'heure, je voulais vraiment que tu nous parles de l'association NOAA, des objectifs de l'association. Tu nous as parlé de l'opération en mai prochain, mais je voudrais que tu nous dises ce que tu as réalisé déjà depuis.
Alors, depuis 2 ans, on a fait 4 missions et on a opéré 110 enfants environ. C'est vrai que l'objectif, je ne suis pas revenue dessus. L'enfant handicapé, partout dans le monde, il est confronté à des difficultés. Mais en Afrique, c'est encore pire parce qu'il y a la connotation mystique qui fait que l'enfant handicapé, il est marginalisé et considéré comme un paria. Or, on s'est rendu compte que 30 à 40% des handicaps pourraient être supprimés, voire supprimés par une simple intervention chirurgicale. Malheureusement, comme on le disait, faute de coûts et puis de plateaux techniques efficace et moderne, on ne peut pas opérer ces enfants facilement ici. Donc notre objectif à nous, c'est vraiment de mobiliser le plus de fonds possible pour pouvoir offrir à ces familles ces opérations gratuites. Mais au-delà de cet objectif premier, c'est vraiment de mettre en place des structures de soins aux enfants dans le domaine de la chirurgie pédiatrique beaucoup plus efficaces et modernes. Par la transmission du savoir, comme vous disiez la semaine dernière, mais également par l'amélioration des plateaux techniques.
Laure Ayassou, comment peut-on contacter l'association NOAA, te contacter, si on souhaite participer justement à toutes les actions, à tous les événements, les manifestations et les opérations?
Alors, vous pouvez nous joindre sur à partir de notre...
Ah ben voilà, Lomé, c'est Lomé. On va prendre les coordonnées que souhaite nous donner Laure Ayassou et vous les transmettre. Lamina Abidjan, tu voulais évoquer la grève des enseignants en Côte d'Ivoire, c'est ça?
Effectivement, Claudie.
Nous t'écoutons.
Claudie, déjà merci de m'avoir permis de pouvoir donner mon avis sur ce qui se passe dans mon pays et de pouvoir aussi crier un coup de gueule un peu à toutes ces personnes qui prennent en otage l'avenir de toute une génération. Donc, comme je disais la semaine passée, c'est une grève pour moi qui est une grève de personnes, d'intérêt personnel, parce que j'arrive pas à comprendre que des gens qui ont reçu d'un État ce que l'État devrait faire pour eux, et qui refusent de le faire pour les enfants et pour l'avenir de toute une nation. C'est aberrant, c'est méchant. Et pour moi, c'est inhumain, parce que le droit le plus fondamental à l'homme, c'est l'éducation. Et moi, je suis père d'une petite fille de 3 ans, comme je dis, et elle est encore au début de son enseignement. Et quand je prends les points sur lesquels l'intersyndicale de l'enseignement scolaire et primaire de Côte d'Ivoire a comme mot de grève, je suis un peu déçu. Et j'arrive pas à comprendre beaucoup de choses. Par exemple, je vous donne un point simple où il parle de leur premier point, c'est la suppression des cours de mercredi. Mercredi, tenez-vous bien que en Côte d'Ivoire, il n'y avait pas les cours de mercredi. Et c'est les enseignants de Côte d'Ivoire qui ont, dans leur esprit, dans leur imagination, pensant que le niveau des élèves en Côte d'Ivoire était tellement bas, qui demandait à ces élèves-là de venir les mercredis. Donc les mercredis, les enfants qu'ils avaient pour habitude de s'amuser, de pouvoir être libres, sont obligés de retourner en cours. Mais chose qui était stupéfiante, c'est que ce n'était pas gratuit. Ils étaient obligés de payer pour avoir droit à ces cours-là. Le gouvernement ayant vu que quelque part, si vous pouvez donner des cours, prendre de votre temps pour le faire, c'est qu'en principe, ça doit aller dans le programme scolaire.
Oui.
Et c'est là que se trouve l'un des problèmes. Et tenez-vous bien, c'est tellement aberrant que vous avez, par exemple, je pense que je ne vous apprends rien, en Afrique, vous pouvez avoir facilement dans une classe 100 élèves. Et vous avez minimum, chaque élève qui doit payer chaque mercredi 1000 francs. Ça lui fait 100 000 francs à l'enseignant, qui n'a rien à voir avec le salaire. Et il a ça 4 fois dans la semaine, dans le mois. Ça lui fait 400 000. Ouais.
Ouais.
C'est injuste parce que il y a des parents qui n'arrivent pas. Quelqu'un qui vit avec moins d'un euro par jour, vous lui demandez d'envoyer son enfant au public et qui paye les coûts de mercredi. Ça se fait. Et ça, c'est tellement aberrant. C'est le premier point de revendication. Ensuite, ils parlent de leurs concours qui doivent être remis. Mais ça, c'est pas pour moi des éléments qui vont empêcher qu'on aille à l'école pendant 2 mois.
Il nous reste 30 secondes, Lamine.
Voilà. Ils nous parlent, par exemple, des logements. Mais moi, je suis stupéfait et c'est là que j'accuse le gouvernement. Parce que, regardez, tous les employés de l'État à l'intérieur du pays, ouais, sont logés aux frais de l'État. Mais comment se fait-il que quand il y a une grève sur le logement des enseignants, les enseignants qui sont à l'intérieur du pays font la grève? Les maîtres, ils ont des logements qui sont construits pour eux,
ouais,
sans qu'ils ne payent. Mais pendant ce temps, l'État les paye les frais,
ouais, Lamine,
qui payent aux mêmes enseignants.
Lamine, merci beaucoup. Mais malheureusement, il est temps de se dire au revoir. J'espère que d'autres réagiront demain à ton propos et à celui de Laure, probablement, s'il souhaite aider. Et également à ce que nous a dit Maxwell. Pour joindre Laure, on mettra ses coordonnées sur le Facebook de Couleur Tropicale. Salut la famille.